RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, une page douloureuse du XXe siècle, le nazisme, évoqué à travers des facettes oubliées de la folie hitlérienne. Et c'est un peu la force de la fiction de nous dévoiler les parts d'ombre qu'il ne faut pas passer aux oubliettes. Le projet fou d'Hitler était d'imposer une race pure, une race qu'il veut même fabriquer en créant des crèches de bébés ariens, des Lebensborn, qui sont passés dans l'oubli, dans lesquels devaient naître les Allemands de demain. Mais une fois le nazisme vaincu, que deviennent ces enfants formatés ? La race des orphelins d'Oscar Lalo est publiée chez Belfond. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler veut prendre sa revanche. Comment attire-t-il à lui tant d'individus prêts à le suivre dans son projet fou ? L'entourage du Führer est fait d'hommes ambitieux, serviles, qui pourront bientôt tomber en disgrâce. Puzzi, le livre de Thomas Snegaroff, est publié chez Gallimard.
Au pied de la lettre, Christophe Hénin.
Bonjour Oscar Lalo.
Bonjour Christophe Hénin.
Avec La race des orphelins, vous signez un roman tout à la fois sensible et percutant, bouleversant vraiment. Dans votre précédent roman, Les Contes des Fées, il était question d'enfance bafouée. Et c'est un peu la même histoire, mais à grande échelle, d'une enfance niée, meurtrie par la folie nazie. C'est l'écriture qui sauve de l'oubli.
Oui, j'ai envie de dire que pour un enfant, c'est toujours à grande échelle. Et que, quelle que soit l'étendue des dommages, pour lui, ils sont toujours à grande échelle. Et que c'est à travers cette protagoniste, effectivement, elle est la chambre d'écho de tous les autres, mais ça reste des destins individuels.
Des livres et des histoires, mais aussi, au pied de la lettre, une place à la poésie avec Stéphane Bataillon, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis on retrouvera un auteur malheureux dont le livre est sorti pendant le premier confinement, alors que la librairie était déjà fermée. Séance de rattrapage tout à l'heure. Alors Oscar Lalo, La race des orphelins, c'est le journal d'Hildegard Müller qui, à 76 ans, revient sur son histoire, ses origines, si on peut dire, parce que cette femme est née pendant la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous un peu dans quelles circonstances.
C'est ça, le propre, vous avez bien fait de souligner le mot origine, le propre de ses origines, c'est qu'elle ne peut pas y revenir puisque manifestement elle n'en a pas. Donc c'est une espèce de cause perdue d'avance qui ouvre à peut-être quelque chose de plus profond. En tout cas, c'est ce à quoi je me suis attaché dans mon roman. C'est-à-dire, peut-être, et bon voilà, sans spolier comme on dit aujourd'hui, la plus belle revanche d'Hildegard Müller sur le nazisme et sur Himmler en particulier, c'est peut-être, grâce à la littérature, de commencer, à un âge même aussi tardif, de penser par elle-même tant l'abdication de la pensée. Vous l'avez dit dans votre introduction, cette espèce de soumission servile de tous les Allemands, de tous bords, de tous niveaux socio-professionnels, a été massive.
Vous l'écrivez, hein, ce journal est ma tentative, puisque c'est la voix d'Hildegard Müller qu'on écoute à travers votre roman, ce journal est ma tentative pour naître par voie orale, c'est-à-dire que c'est bien ce témoignage qui est important. Alors vous l'avez dit, elle ignore son origine, si je puis dire, mais malgré tout, elle est née dans quelles circonstances ? Dites-nous un petit peu.
Donc, elle est née,
qu'on a trop facilement oublié.
Bien sûr, si on doit décrire les Lebensborn, Lebensborn, ça veut dire source de vie, fontaine de vie en allemand. Et en fait, c'est une invention vraiment plus d'Himmler que d'Hitler. Himmler qui avait été un temps éleveur de poulets sans grand succès et qui a ça un peu dans le sang, si j'ose dire, puisque lui-même, comme beaucoup de dignitaires d'Asie d'ailleurs, il suffit de penser à Goebbels entre autres, ressemblait si peu à cette race aryenne pure, etc., dominante, qu'ils ont eu un peu, psychanalytiquement, c'est assez intéressant, comme ambition de se venger en démultipliant cette race. Et comment le faire? En créant des maternités SS où seraient regroupés alors l'espace d'une nuit. Alors bon, il y a beaucoup de cas, mais on va dire que une des façons, c'était de faire venir des SS qui, eux, en amont, avaient déjà répondu aux critères SS, aux critères de la race supérieure, pardon, et de les accoupler, il n'y a pas d'autre mot, avec des jeunes filles, souvent des jeunes femmes, mais souvent des jeunes filles, qui avaient subi une sélection analogue. Et donc, l'idée, terrible d'ailleurs, et c'est pour ça que mon livre s'intitule « La race des orphelins », c'était de créer une race d'orphelins, c'est-à-dire dont la marque de fabrique première serait qu'ils n'auraient pas de parents connus.
Mais qui rapprocherait de cette race pure dont rêvaient Himmler et Hitler.
C'est ça. Et avec comme objectif, c'est pour ça qu'il m'a semblé important d'écrire ce livre à un moment donné, au-delà de la fascination d'un autre délire nazi comme ça, ou de la mise en œuvre d'un tel délire, il a quand même été conçu pour remplacer les races inférieures, au premier rang desquelles les juifs, alors bien sûr il y a des guillemets à tout ça, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les slaves, et pour son Reich millénaire, donc à Hitler, de créer cette race de maîtres, même si, sans tomber dans le jeu de mots trop facile, quand on était une femme Lebensborn, une enfant Lebensborn fille, ce serait plutôt une race de maîtresse, puisqu'il y a eu à cette occasion une régression absolument terrible des droits de la femme, qui était très avancée à cette époque-là, en Allemagne particulièrement.
Et vous montrez dans votre livre que, en fait, c'est l'autre facette de ce projet fou d'Hitler. C'est, il y a à la fois les camps de concentration et le projet d'exterminer les Juifs, et de l'autre côté, ce côté de créer de toutes pièces, enfin en tout cas, oui, c'est ça, de faire surgir à travers les Lebensborn, cette race dite supérieure, un projet qui date de 1935,
c'est ça. C'est là où l'association a été créée. Ce qui est intéressant, et notamment, je pense, sur votre radio, c'est de dire que quand même, alors certes, les Juifs étaient au premier plan, les Juifs ont eu les pires conditions dans les camps de concentration, tout le monde le dit, David Rousset, Jean Emery, comment s'appelle, Marguerite Duras,
Pierre Antelme.
Antelme.
Robert Antelme.
Robert Antelme.
Ouais, j'avais perdu son prénom.
Mais il faut savoir que Hitler en avait après toutes les religions, et notamment la religion catholique. Pourquoi? Parce que il était devenu Dieu. Il était le serment. SS est à ce titre assez fascinant, parce que de mémoire comme ça, mais les SS et tous les fonctionnaires devaient dire « Je jure devant Dieu obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler ». Donc, avec, si vous voulez, on a Dieu et Adolf Hitler de chaque côté. Et il y avait pour lui, pour le national-socialisme, quelque chose d'absolument insupportable à ce que toute religion, en dehors de la religion de lui-même, existe. Et on doit les très rares, à part Sophie Scholl et puis quelques cas isolés, mais il faut voir que ça a quand même été un soutien massif, on le doit quand même... à certains prêtres, à certains évêques, qui sont notamment manifestés, comme vous le savez certainement, lorsque on a commencé à gazer les handicapés mentaux, et de façon d'ailleurs plus extensive, tout ce qui était considéré comme handicapé. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on a constaté à ce moment-là que la résistance morale opérait, puisque Hitler a arrêté ce programme d'euthanasie. Malheureusement, il s'est servi des chambres à gaz pour les Juifs. C'est là qu'elles ont été initiées. Mais voilà, les religions lui étaient, j'ai envie de dire, d'autant plus contraires, quoi.
Voilà. Alors, vous montrez aussi hein, dans votre livre, quand on écoute Hildegarde Müller, être pouponné par des bourreaux. Vous montrez bien que d'un côté, effectivement, il y a le projet fou d'éliminer, et de cet autre côté, on crée le malheur de milliers d'enfants. Il y avait combien d'enfants qui sont nés dans ces Lebensborn? On a une idée. Il y en avait 34, un petit peu dans toute l'Europe.
Non, et ça, c'est un chiffre, si vous voulez, Christophe, très, très conservateur. Moi, j'ai pris tous les chiffres les plus conservateurs qui soient, pour pas faire de sensationnalisme, et pour me rapprocher au plus près de la vérité historique. Parce que c'est un roman, mais j'ai voulu vraiment, par respect envers les enfants Lebensborn, qui ont entre 70, enfin, 15, 80, 85 ans, on va dire. Donc, il y en a encore qui sont en vie. Que ça soit le plus historiquement prouvé. Donc, si je n'arrivais pas à valider historiquement ce que j'avançais, je le mettais pas. Et donc, par exemple, si vous regardez sur Wikipédia Lebensborn, de mémoire, je sais qu'il marque qu'en Norvège, où il y en avait beaucoup, puisque Himmler considérait que c'était la race la plus supérieure, qu'il y en avait entre 9 et 15. Comment est-ce qu'on peut être aussi approximatif, si vous voulez? Un Lebensborn, c'est pas un landau, c'est un bâtiment, c'est une institution, les gens l'ont vu. Donc, c'est qu'on est dans une négation et un oubli de l'histoire qui est colossal. Et quand, donc, il y en avait en tout cas à minima 20 000, et puis, dans
20 000 enfants,
20 000 enfants nés dans les Lebensborn. Mais bon, il y a des chiffres qui disent deux fois plus, qui disent 200 000, mais c'est pour ça qu'il faut se garder, parce que bien malin, à part un historien, j'espère que Thomas Negaroff sera inspiré par la race des orphelins, mais un agrégé, je crois qu'il est agrégé d'histoire, donc un agrégé d'histoire.
Il nous donnera son...
s'empare de ça, parce que c'est pareil pour, c'est un autre volet donc du livre, les enfants volés, puisque effectivement il y a aussi eu ce volet sans jeu de mots terrible de ce projet. Eux, on pense qu'ils étaient au minimum 200 000, mais on pense plutôt qu'il y en avait autour de 2 millions, comme le dit Marc Hillel dans un livre qui fait référence quand même et qui s'appelle Au nom de la race.
Et puis vous montrez bien aussi que les enfants qui ne répondent pas véritablement aux critères, leur destin s'arrête là, quoi.
C'est ça, tous ces, parce qu'il y a, bon, là je renvoie à Victor Klemperer, La langue du Troisième Reich, qui est vraiment un bouquin fascinant. Mais pour revenir juste à ce que vous disiez avant, les bourreaux, puisqu'elle parle de ces bourreaux, c'est très important de parler de ces bourreaux, parce que, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon livre La race des orphelins. C'est-à-dire qu'au-delà de la traduction, j'ai envie de dire, au premier degré de ce qu'étaient ces enfants, des orphelins, une race d'orphelins, c'est aussi fou que ça puisse paraître, imaginé, conçu comme tel, je voulais quand même montrer que dans ces régimes totalitaires, et là, bien sûr, on dépasse le nazisme, on peut aller partout, les Khmer, les communistes sous Staline, et au-delà d'ailleurs, et on s'aperçoit que la race inférieure, on va dire, et toujours avec beaucoup de guillemets, comme la race supérieure, font partie, in fine, de la race des orphelins de l'humanité. Parce que les régimes totalitaires déshumanisent les bourreaux comme les victimes. C'est-à-dire que, parce que tous les livres que vous pouvez lire sur les nazis, j'ai envie de dire, mais c'est terrible, c'est des gens comme vous et moi. C'est-à-dire, ce sont des ébénistes, des avocats, des plombiers, et qui tout à coup se mettent à tuer des centaines, des milliers de personnes, notamment dans les Einsatzgruppen. Et donc, c'est possible si on arrive à une totale déshumanisation de ces êtres. Et je dois dire qu'en ne donnant pas de parents à ces enfants, on amorce déjà une totale déshumanisation de ces enfants, parce que pas de parents, ça veut dire qu'il leur manque l'élément central, je dirais, et de toute religion, et de toute vie qui est l'amour.
Oui, vous montrez bien cet engagement complètement aveugle des personnes qui ont tenu ces Lebensborn. Je vais finir par croire que les nazis étaient une armée de débiles qui obéissaient sans jamais penser à eux-mêmes. Et à une autre page, vous expliquez, le plus grand mal du monde est le mal commis par des personnes insignifiantes.
C'est ça. C'est ça. Et ça va encore plus loin, puisque une des particularités de tous les régimes totalitaires, mais particulièrement du nazisme, c'est cet effacement graduel de la frontière entre victime et bourreau. Et dans le cas des enfants Lebensborn, a presque une inversion entre victime et bourreau, qui a réussi, puisque le drame de ma protagoniste Hildegard Müller est d'avoir été considéré comme étant dans le camp des bourreaux, alors qu'on peut pas être nazi, même si à un mois il faisait partie des nazis, avec encore ce parallèle de religion, ce baptême nazi. Donc, il n'était pas déclaré à l'église, il n'était pas déclaré à la mairie, c'était vraiment un système parallèle. Et donc, on arrive à une confusion telle, si vous voulez, qu'effectivement on arrive à une inversion, comme avec les Judenrat, qui étaient ces espèces d'assemblées que les nazis demandaient aux juifs de créer avec les gens les plus influents, et à qui ils demandaient, ce qui est absolument terrible, de faire la liste des gens qui seraient envoyés en concentration. Je dirais que l'exemple paroxystique, c'est le choix de Sophie, avec la participation de la victime comme bourreau, puisque la mère doit choisir entre ses deux enfants.
Là, vous montrez aussi, parce que ce sentiment, on ne décide pas d'être nazi à 18 mois, de ce sentiment de ces enfants qui deviennent eux-mêmes montrés du doigt, d'autant plus que, alors ça c'est extraordinaire, c'est que les personnes poursuivies, les nazis poursuivis pour ces Lebensborn ont été acquittés.
Acquittés, ça c'est le...
Au procès de Nuremberg.
Oui, à un des procès, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de procès quand ils en sont arrivés là. Comparer Max Sollmann à Göring ou à Streicher, tout à coup, ça semblait du menu fretin, alors que c'était pas le cas. Mais malheureusement pour les enfants Lebensborn, effectivement, là, comme je l'écris, cet acquittement est une condamnation irréversible.
Des enfants eux-mêmes, oui.
Des enfants, puisque si leurs bourreaux n'ont rien fait, c'est qu'ils ne sont pas victimes.
Et dans votre livre, vous faites mention, vous rapprochez ce qu'a vécu Hildegard Müller du journal d'Anne Frank. Expliquez-nous.
Alors oui, je viens de vous parler un peu de l'effacement de la frontière entre victime et bourreau. J'ai mis vraiment un temps à oser ce parallèle, puisque on est quand même face à... J'ai envie de dire, je trouve pas totalement les mots, mais une douleur juive incommensurable. 6 millions de personnes effacées, femmes, enfants, nourrissons, vieillards, hommes, enfin, dont le que j'appelle des criminels sans crime, c'est-à-dire dont le seul crime était d'être né juif. Alors tout à coup, dire, mais il m'est apparu évident que Hildegard Müller, au même titre qu'Anne Frank, étaient des victimes du nazisme. Et que finalement, elles avaient beaucoup de points communs. Elles avaient... c'est pas juste un point commun, c'est qu'elles elles se sont retrouvées toutes les deux prise au piège du totalitarisme, et il y a des similarités, si vous voulez, pour tout, similarité de l'évacuation à la fin de la guerre, similarité quant à l'oppression totalitaire qu'elles ont vécue, c'est-à-dire une vie strictement réglementée, tant dans les camps de la mort tout ce que j'appelle les camps de la vie, la similarité de ne pas savoir pourquoi on est là, similarité d'être un élément de la masse, similarité quant à l'oppression de la femme, quant au problème d'être un survivant, quant au silence autour de ce qu'on a vécu après la guerre, silence assourdissant, jusqu'en Israël d'ailleurs, pour les enfants juifs, comme en témoigne beaucoup, comme même aussi près que la France, comme en a témoigné Simone Veil. Similarité quant à la destruction des preuves, quant à la, si vous voulez, c'est quant à l'utilisation des chambres à gaz, et similarité, j'ai envie de dire le plus important, comme utilisation du nazisme comme laboratoire, puisque les camps de concentration étaient quand même beaucoup des laboratoires scientifiques, enfin Mengele et compagnie, mais ça allait beaucoup plus loin, même des laboratoires industriels, et les Lebensborn étaient vraiment le laboratoire type.
Cette page d'histoire qui ne veut pas s'écrire, écrivez-vous un moment. Pourquoi ce point aveugle autour des Lebensborn?
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison tristement économique, on va dire, c'est que quand on peut revendiquer le statut de victime, ben, il y a des réparations qui doivent suivre. Or, ces réparations viendraient de l'Allemagne. Or, l'Allemagne elle-même, c'est là où on est vraiment dans le comble du comble, si vous voulez. L'Allemagne elle-même peine à attribuer un rôle de victime à aussi absurde que ça puisse paraître, puisqu'à l'évidence, on l'aura tous compris, on ne peut pas être nazi à 18 mois, on ne peut pas être nazi à 1 mois, on ne peut pas être nazi à 3 ans. Or, cette étiquette leur colle à la peau. Et donc, on voit, vous vous souvenez peut-être, c'était paru dans Le Monde, il m'a semblé, ou dans Libé, il y avait eu un petit scandale quand on avait réalisé que d'anciens SS touchaient des retraites, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, l'amalgame est tellement vite fait. Ils répondent tellement à un slogan, de par leur physique, de par leur histoire, de par leur non-histoire, que finalement, ça arrange tout le monde de les oublier. Vous savez, j'ai trouvé tellement peu de littérature pour... Enfin, j'ai vraiment pas trouvé le livre référence historique, donc j'ai dû faire des recherches assez colossales. Et donc, je suis vraiment allé, j'ai ratissé très large. Et j'ai envie de dire, l'oubli... arrange tout le monde dans le cas d'Hildegard, et notamment dans un livre que j'avais vraiment pris par hasard, qui est l'histoire du cinéma de Jean-Luc Godard. Je l'ai ouvert comme ça dans une librairie, et je l'ai ouvert à une page, c'est quand même incroyable, il doit faire 900 pages, et je suis tombé sur cette phrase, l'oubli de l'extermination fait partie de l'extermination.
À ce point, hein, d'ailleurs, que c'est ce que vous soulignez aussi, c'est que ce qui est cassé. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas recoller. Voilà, la guerre est terminée. Pour autant, le mal est fait pour ces enfants.
Ah, alors pour ces enfants-là, précisément, non seulement le mal est fait, mais il commence.
Oui, c'est ça.
Il commence de face. C'est-à-dire que tout le monde s'est libéré à la libération, avec encore des guillemets, pour ceux que ça intéresse, il y a un excellent livre qui s'appelle « L'Europe barbare » de Lowe, qui explique que quand même jusqu'en 50, il y a eu pas mal de règlements de compte dans toute l'Europe, pas mal d'épuration ethnique et compagnie, tellement la tectonique des plaques, si tout ça avait été tellement secoué. Mais pour les enfants Lebensborn, ça a été terrible, et notamment en Norvège, et parce que il y avait eu le gouvernement Quisling qui est vraiment devenu presque emblématique de ce qu'est la collaboration, donc il fallait laver tout ça, et ces enfants étaient parfaits pour laver tout ça. Donc on s'est vengé sur eux, on s'est vengé sur leur mère. Je vais pas faire l'injure à la France de remémorer quand même la façon dont étaient traitées les femmes qui avaient couché avec des Allemands, ce qu'on appelait la collaboration horizontale. Il y a quand même eu 200 000 enfants de Bosch, excusez cette abominable expression, et qui ont gardé cette étiquette longtemps, longtemps, qui ont été ostracisés vraiment toute leur jeunesse au lycée, leurs parents, enfin, c'est donc... Donc c'est vrai que voilà, l'oubli avait ses vertus.
on l'a dit tout à l'heure, hein, ce sont aussi des hommes ordinaires qui se sont lancés dans ce projet fou d'Hitler, du nazisme. Comment vous avez lu Pudzi, le livre de Thomas Negaroff, là aussi où on a un personnage fantasque assez déroutant?
J'ai envie de dire qu'un des grands intérêts du livre de Thomas Negarov, c'est de montrer que ce type, somme toute sympathique, pianiste, cultivé, d'une bonne famille, représente bien le peuple allemand. C'est-à-dire qu'il est, j'ai envie de dire, presque courtoisement antisémite. Ça ne le dérange pas plus que ça du tout, d'ailleurs presque pas, même après. On parlait de ce serment SS, il est soumis à Hitler, quelle que soit la façon dont Hitler le méprise. Et je crois, puisque j'en parlais au début, que vraiment ce serment SS a joué un rôle, et puis là c'est pas moi qui le dis, et Thomas Negarov pourra confirmer ça, c'est que y a même des historiens qui pensent que si à un moment donné, vers 38 il me semble, il y a toute une partie de la Wehrmacht qui pensait se débarrasser d'Hitler, faire un attentat, mais le serment, tout ce serment au Reich, au peuple allemand, à Adolf Hitler, les en a empêchés, comme jusqu'à la fin. Ça a empêché vraiment, bon, à part l'attentat, il me semble que c'était le 20 juillet 1944, mais il y a eu cette espèce de soumission.
Donc Pouzi est un peu le symbole. Alors votre livre, il est vraiment passionnant, Oscar Lalo, construit aussi, on aurait pu en parler, mais le temps nous presse, construit par de courts chapitres haletants qui nous entraînent vraiment dans cette... j'allais dire cette confession, mais malgré tout, Hildegard de Müller n'est pas coupable, elle est plutôt victime, donc il ne peut pas s'agir de confession, mais plutôt ce journal, La race des orphelins, paru chez Belfond. Allez, on va écouter un extrait lu par Stéphanie Gallet.
Un tas de cendres. Que les SS essayent de faire disparaître tout ce qui a trait à leur entreprise industrielle de donner la mort, on peut le comprendre. Qu'ils fassent la même chose concernant leur entreprise non moins industrielle de donner la vie, est plus surprenant. Je dois faire partie d'une bien sale race pour qu'on s'applique tant à en faire disparaître toute trace. À Steinering, le 30 avril 1945, les SS ont brûlé tout ce qui avait trait au projet démoniaque des Lebensborn. Avec cet autodafé, ils ont cramé le peu d'informations auxquelles j'aurais pu avoir accès. Cette incinération de la mémoire engendre cette écriture du vide. Notre élimination administrative a fait de nous des orphelins pour l'éternité. Si on me libère du Lebensborn de Steinering en Bavière, c'est qu'on m'a encore menti. Peut-être que ma mère n'est pas norvégienne. C'est un coup dur pour moi. J'aimais me raccrocher à l'idée d'une mère norvégienne, à l'idée d'une ascendance pas 100% allemande. Moitié coupable, moitié victime. Race d'orphelin ou pas, en 1945, c'est dur d'être allemande.
Pour qui, comment, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre.
Perlin Pimpin, chanté par Barbara en 1972, un texte très poétique, très dur, qui figure en exergue du livre d'Oscar Lalo, La race des orphelins. Notre invité aujourd'hui, Oscar Lalo, avec aussi Thomas Snegarov pour Pouzi chez Gallimard.
Au pied de la lettre, RCF.
Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, historien. Pouzi, c'est votre premier roman magistral sur un des personnages qui aurait pu être un personnage clé du système nazi et qui fait peut-être partie aussi, on va y venir, des perdants, des vaincus peut-être, avant même la fin de la guerre.
Oui, en tout cas, c'est un perdant sentimental parce que il avait un attachement très fort au régime, très fort à Hitler en particulier. Et effectivement, il s'est trouvé trimballé dans l'histoire, dans les entrailles de ce siècle de destin contrarié, parce qu'en fait, c'est un perdant dans la mesure où oui, c'est un homme qui s'est rêvé un destin dont j'imagine revenir sur lequel on va de revenir et qui a vécu un destin extraordinaire, mais qui n'était vraiment pas celui qu'il désirait vivre. Et à ce titre, effectivement, il fait partie de ces grands perdants de l'histoire qu'on l'imagine vieux monsieur dans sa maison de Munich, en train de ressasser ce passé et ce destin qu'il aurait pu vivre. Je mets un peu de l'affect là, alors qu'on parle d'un nazi, donc on est là au cœur de la, je crois, du mystère un peu du personnage.
Et de votre livre. Hein. Alors Pouzi, ça veut dire petit bonhomme, alors que votre héros est au nom imprononçable, hein, est une vraie force de la nature, un ami d'Hitler, notamment parce qu'ils ont en commun une dévotion pour Wagner. Et Pouzi, eh bien, fréquente les puissants de l'Allemagne nazie à ses tout débuts. C'est un peu le point de départ où peut-être il y a une sorte d'inconscience chez lui.
Il faut rappeler que il est allemand par son père et américain par sa mère, que sa famille est une grande famille de marchands d'art et qu'il est envoyé aux États-Unis assez tôt pour suivre des études à Harvard et afin d'y développer aux États-Unis et à New York en particulier l'entreprise familiale de vendeurs de vente de lithographie, de reproduction d'art. Et il est cueilli par la Première Guerre mondiale quand il est à New York dans le confort du Harvard Club. En 1917, quand les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, en avril 1917, et il va se retrouver effectivement pris dans une espèce de nasse affective entre d'un côté le pays de son père, le pays de sa mère, avec la culpabilité profonde d'avoir perdu deux de ses frères dans la guerre, lui qui a préféré ne pas s'engager, et donc il rentre en Allemagne. Et effectivement, c'est une très grande famille allemande, une très grande famille bavaroise de Munich en particulier. Il y a encore aujourd'hui un bâtiment immense où il y a écrit en lettres d'or le nom de famille Amstengel. Donc c'est vraiment une famille importante. Et il va effectivement, par un hasard quasiment complet, découvrir et assister à un discours d'Hitler et tomber sous une forme de fascination pour le personnage. Et en effet, il va trouver en Hitler une forme de consolation, de peut-être de quelque chose qui lui permettait de se reconnecter à ses deux frères morts et surtout à Egon, son frère adoré, mort dans la Somme. Et peut-être il y avait un peu de ça chez lui. Et effectivement, après, embarqué dans cette histoire, il ne va cesser d'offrir à Hitler à la fois de la musique, Wagner en effet, des relations, de l'argent, et d'être finalement, même s'il est assez méconnu aujourd'hui, être un des rouages de ce que va devenir l'hitlérisme et le nazisme quand il arrivera au pouvoir 10 ans plus tard, car il le rencontre en 1922.
Alors vous montrez aussi que ce drame, cette tentation de l'antisémitisme existe aussi aux États-Unis. En tout cas, Pouzi essaie d'être un peu le pont entre les deux. Heureusement, ça n'a pris que, et malheureusement, cela a pris en Allemagne.
Ouais. Oui, il y a, c'est ce qui est le plus fascinant chez le personnage, c'est d'avoir cherché à réconcilier le pays et de sa mère, mais pas uniquement à une échelle psychanalytique sur un divan ou à une échelle intime, mais d'en avoir voulu faire un projet politique international. Et en Hitler, il voit aussi le moyen pour lui de réaliser ce rêve de réunifier le pays de son père, le pays de sa mère, les États-Unis et l'Allemagne. Alors, ça peut sembler aberrant et totalement ahistorique de tenter de le faire, alors qu'en réalité, et c'est aussi un des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, on voit à quel point, en fait, quand Pouzi tente de convaincre Hitler qu'il y a de part et d'autre de l'Atlantique une convergence de vues, notamment sur un ennemi commun qui serait le judéo-bolchévique, finalement, il prêche pas dans le désert. Alors, ça va pas fonctionner parce qu'Hitler est tellement nationaliste qu'il ne peut pas supporter l'idée de s'allier avec un autre peuple qu'avec lui-même. Mais il y a aux États-Unis, effectivement, un terreau très fertile à cette idéologie-là, qui précède même l'hitlérisme. Hein. Hitler va être un grand lecteur des textes de Madison Grant sur la race nordique, la race anglo-saxonne, supérieure et blanche. Il y a dans les universités américaines, les grandes universités, Harvard, Yale ou Princeton, déjà dans les années 20, des quotas d'étudiants juifs pour préserver la race WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Il y a aussi aux États-Unis tout un courant, nourri notamment par Henry Ford, qui véhicule les théories les plus racialistes possibles, ou ce faux grotesque mais dangereux du protocole des sages de Sion, qui dit que les juifs veulent dominer le monde et qu'ils l'ont organisé de manière consciente avec une espèce de réunion entre des grands dirigeants et des grands rabbins. Bref, tout ça est aux États-Unis. Puzzi le sait bien, Hitler le sait bien aussi, parce qu'il est fasciné lui-même par les États-Unis, par la culture américaine. D'ailleurs, les lois de Nuremberg de 1935 sont directement inspirées des lois de ségrégation raciale américaines. Vous avez des juristes nazis qui vont, dans les années 30, notamment à Fayetteville, grand lieu du droit américain dans l'Arkansas, comprendre comment les Américains ont réussi à empêcher que les Noirs viennent pervertir la race blanche, avec la fameuse loi de la goutte de sang, hein, qui impliquait que si vous avez une goutte de sang noir dans votre lignée, vous ne pouviez pas ni vous marier, ni avoir de relations sexuelles avec un blanc. Eh bien, les nazis vont s'inspirer de cela pour les lois de Nuremberg, la définition d'un juif, et les interdits qui vont avec, en 35. Donc, il y a des allers-retours entre les deux mondes. Tout ça pour dire que Puzzi n'est pas un illuminé. Il joue sur une fibre existante, sur un terreau fertile, mais comme vous l'avez dit, qui n'est pas allé jusqu'à son terme, et certainement heureusement.
Alors, vous le dites aussi, on a l'impression que c'est un homme qui a soif de pouvoir, mais en même temps, quand vous décrivez, on a l'impression qu'il joue en permanence, qu'il est dans une sorte d'immaturité. Vous écrivez, Puzzi n'avait pas 20 ans quand il prit goût à la lumière du pouvoir, mais en même temps, il a l'air assez maladroit dans ce monde-là.
Oui, c'est vrai. C'est même dit, on a commencé l'entretien sur son surnom, Puzzi, et sur sa taille, alors qu'il mesure 2 mètres. Puzzi, ça veut dire petit bonhomme. Là, je crois que tout est un peu dit là, déjà. C'est-à-dire que la manière dont on l'appelle ne correspond pas à ce qu'il est physiquement. Et d'une certaine manière, c'est une belle métaphore pour montrer à quel point il est difficile à cerner ce personnage. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du livre, hein, pour moi. C'est, est-ce qu'on est face à un monstre, un artisan du mal, ou face à un clown, face à un bouffon? Certains ont pu le dépeindre comme un bouffon et comme un clown. D'autres ont pu lui donner, notamment Roosevelt, quand il va le faire venir à la fin, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme un informateur sur le régime avec lequel Puzzi avait rompu, en tout cas officiellement, de savoir. Donc il lui donnait un rôle important. Il voyait en lui bien plus qu'un bouffon, qu'un clown, mais quelqu'un de très important potentiellement. Donc on est effectivement, on navigue toujours entre deux eaux, entre ce type qui joue du Wagner merveilleusement bien, mais qui joue aussi des airs un peu comiques, et qui se déguise en femme dans sa jeunesse à Harvard. On est effectivement sur la ligne de crête entre le clownesque et le tragique. Et c'est ça aussi qui est intéressant chez ce personnage, dont on a du mal à vraiment voir les contours dans cette ombre-là dramatique de ce siècle. Et effectivement, c'est en ça aussi que c'est un personnage romanesque, attiré par le pouvoir, mais considérant que sa relation avec Hitler était d'abord et avant tout intime. Donc je ne crois pas qu'il fût jamais un grand idéologue, mais voulant être le préféré, finissant ostracisé comme tant d'autres. C'est-à-dire qu'il est à la fois extraordinaire et unique, et en même temps assez banal dans la fascination qu'Hitler exerce en lui, dans son itinéraire, qui est finalement celui de quelqu'un qui va être ostracisé par le régime comme tant d'autres l'ont été avant lui. Donc il est les deux, il est à chaque fois les deux. Il a à la fois l'ombre et la lumière, il a à la fois celui qui aurait pu changer le monde et qui finalement a été changé par le monde. Enfin voilà, il est vraiment à la rencontre de beaucoup d'univers et de beaucoup de dialectique, je trouve.
Avec chez lui cette dimension affective essentielle, quoi. Oui, il a besoin qu'on l'aime, et notamment que Hitler le reconnaisse. Or justement, Hitler joue un peu avec lui, et d'une certaine manière, oui, il y a une ingratitude d'Hitler.
Oui, de toute façon, Hitler a ce rapport à Puzzi qui est intéressant, et qui, je crois, dépasse pour le coup la petite histoire de Puzzi et nous plonge un peu dans la grande histoire, puisque, en gros, Hitler reste très, très loyal et fidèle à ses compagnons de lutte de la Première Guerre mondiale, ceux qui ont connu avec lui l'horreur des tranchées. En revanche, les autres, ceux qui l'ont connu jeune, je veux dire après-guerre, hein, mais qui n'ont pas cette expérience de la guerre et qui l'ont connu un peu miséreux, misérable, il va progressivement, et c'est un phénomène assez connu, hein, dans les cours par exemple, hein, il va les éloigner de lui à mesure qu'il monte vers le pouvoir, parce qu'il ne supporte pas de voir dans l'œil de Puzzi le misérable qu'il a été à un moment donné. C'est-à-dire que je raconte dans le livre une anecdote. À un moment donné, on est dans les années 20, Puzzi est en voiture avec le chauffeur d'Hitler et avec Hitler, et ils sont en train d'aller lever des fonds ailleurs en Allemagne, ils se déplacent. Et à un moment donné, ils sont dans une province allemande qui est dominée largement par les bolcheviks. On est quand même dans un contexte pré-révolutionnaire en Allemagne. Ils sont arrêtés et le milicien, et Puzzi a une idée, il sort et il prend un accent ridicule américain en faisant croire qu'il est marchand d'art, etc. Il montre au loin la voiture et il dit: je suis avec mon chauffeur et avec mon serviteur. Et le serviteur, c'est Hitler. Et le milicien y croit. Et donc les laisse repartir. Alors on se dit, voilà, ça y est, il a sauvé la vie d'Hitler. Sauf que quelques années plus tard, évidemment, Hitler se souvient de cette histoire, il lui en parle souvent. Et ce qui est terrible pour Puzzi dans la suite, et ce qui expliquera en partie le fait qu'il sera éjecté du régime, eh bien c'est que non seulement il a été le témoin de cela, c'est-à-dire que non seulement Puzzi a dit « c'est mon serviteur », mais le pire, c'est qu'il a assisté à un moment historique où on a cru qu'il l'ait pu être son serviteur. Et donc cette idée-là qu'Hitler était à ce point miséreux, misérable, qu'on puisse le prendre pour le serviteur de Puzzi, c'est quelque chose qu'il veut effacer de cette histoire, et donc autant effacer le messager, à savoir Puzzi.
En attendant, il arrive quand même parfois à se trouver une place, hein, quand Hitler arrive au pouvoir. Une place notamment, alors, il se fait une place dans la machine infernale, écrivez-vous, parce qu'il va s'occuper de la communication. C'est un élément important à la fois, et en même temps, on sent bien qu'il joue ce rôle-là vraiment comme surtout un faire-valoir pour lui, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai. Son titre officiel, c'est responsable chef de la presse étrangère. Comme il est parfaitement bilingue et qu'il connaît très bien de ses aînés de New Yorkaise et de Harvard surtout, toute l'intelligentsia américaine, il va être celui qui sera l'interface entre les journalistes du monde entier qui veulent interviewer Hitler et Adolf Hitler. En tout cas, dans les premières années, entre 33 et 34, 35, ça va vite dérailler, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est pas qu'il est pas très bon, c'est que, en fait, il adore lui-même se faire mousser, il aime ce poste où tout le monde cherche à le joindre lui, parce qu'il est celui qui tient les portes du Graal.
Mais est-ce qu'il sent véritablement le drame qui est en train de se jouer? Alors, à un moment dans votre livre, quand les choses tournent un petit peu mal pour lui, c'est Puzzi lui-même qui écrit « L'envie me prend de lui crier de fuir ». Il s'écrit à lui-même « N'attends rien de l'Allemagne, Puzzi, Phil, rachète ton âme s'il est encore temps ». Il a conscience de ce qui est en marche?
Ça c'est moi qui lui dis ça. En fait, c'est un des rares moments où, comme disait Benjamin, la main du potier apparaît, c'est-à-dire la mienne.
De temps en temps, hein, dans votre enquête, ouais, à travers le livre.
Pas trop quand même. Mais c'est vrai que on a envie de lui crier ça à un moment donné, parce que connaissant la fin de l'histoire, connaissant ce qui est en train de se jouer, on est atterré en fait à un moment donné par son sentimentalisme, parce que c'est vraiment ça qui le fait rester quand il est sorti du régime en 37. Il n'attend qu'une chose pour revenir, c'est une lettre écrite de la main d'Hitler. Donc quelque chose de très affectif à cet endroit-là. C'est bien sûr aussi une garantie pour ne pas se faire tuer en revenant en Allemagne, mais je crois qu'il y a plus que ça. Il veut vraiment à nouveau éprouver la relation privilégiée qu'il a vue avec Hitler entre 1922 et 1927-28, quoi, à peu près. En tout cas, c'est vrai, on a envie de lui dire, mais fais quelque chose. En fait, prends ton destin en main. Et je raconte même à un moment donné, j'imagine même après 34, après la nuit des longs couteaux, qu'il découvre quand il est aux États-Unis pour l'anniversaire de sa promotion de Harvard, où il est invité en grande pompe, hein, quand on parlait tout à l'heure des amitiés nazies des États-Unis, là c'est quand même un signe, hein. En 34, alors qu'il est ministre nazi, il est invité pour les 25 ans de sa promo de 1909 à Harvard en grande pompe, c'est l'invité prestigieux. Et quand c'est là-bas qu'il apprend la nuit des longs couteaux, et il se dit, oh là là, mais si j'étais resté, il n'est pas SA, mais s'il était resté, qu'est-ce qui serait passé? Et donc j'imagine dans le livre, à un moment donné, je l'imagine partir. Il rentre, Et il s'en va et il quitte le pays, peut-être vers la Suisse. Mais tout ça est imaginé de ma part parce qu'il n'est pas parti. Parce qu'il est incapable de partir. Et il n'est parti finalement que forcé.
Ça, vous l'avez imaginé, mais malgré tout, c'est un roman qui est extrêmement documenté. Vous avez vraiment mené une longue enquête. Pouzzi vous a fasciné ?
Oui, alors, oui. Fasciné ne veut pas forcément dire que...
Pas forcément admiré ou...
Voilà, ça ne veut pas dire forcément... Mais effectivement, il y a un moment donné où... Ouais, c'était le risque de se laisser aspirer par le personnage. Mais vous avez raison, c'est un travail très long de recherche, d'enquête, où on met en place des méthodes d'historien, véritablement, avec une critique interne, critique externe des documents, vraiment tout ce que Marc Bloch appelait le métier de l'historien. En revanche, il y a aussi la part romanesque qui apparaît par-ci par-là, ou je dis pas forcément à quel endroit, mais en tout cas, il y a des éléments romanesques, notamment quand vous dites qu'on me voit à des endroits, ça c'est la construction elle-même l'est assez, mais ça me permettait de prendre aussi une forme de distance par rapport à ça. Et dans le livre, l'autre livre que vous évoquez aujourd'hui avec le mien, celui d'Oscar Lalo, il y a toute une réflexion, je trouve aussi très très intéressante sur la langue allemande en fait. Quand il y a tout un moment où il est dit je ne veux pas qu'on parle allemand parce que l'allemand c'est la langue du mal, la langue de l'horreur, etc. Et ben c'est une chose que j'ai reconnue, que j'ai rencontrée aussi dans un moment donné où je me suis dit est-ce que je vais faire parler Hitler en fait, est-ce que je vais inventer des mots pour Hitler. Et la réponse a été non, moralement c'est impossible dans la mesure où les mots d'Hitler sont ceux qui ont conduit aussi à la Shoah. Et du coup c'est intéressant de voir comment ces deux livres résonnent au moins à cet endroit-là sur la question de la langue, sur la question de la place de celui qui écrit. Même si dans le bouquin de Lalo c'est à mon avis beaucoup plus présent que dans le mien, mais la question quand même de celui qui regarde est importante, d'où votre question à vous, est-ce que j'étais fasciné, bien sûr il y a de ça, mais c'est un objet qu'on regarde et qui vous regarde aussi, donc c'est un aller-retour permanent je crois, même si évidemment dans le livre on voit plutôt moi qui regarde Pouzzi, mais il y a aussi un regard inversé que je ne veux pas exagérer ici, et surtout c'est pas du tout d'autofiction, c'est pas du tout une autobiographie déguisée, pas du tout. Mais on ne peut pas faire l'économie de ça quand on écrit un livre, surtout sur un sujet pareil. Ça renvoie évidemment immédiatement à des tas de sentiments très enfouis, de peur, d'inquiétude, etc.
D'une page d'histoire impressionnante. Bon, on va écouter un petit extrait. Merci Thomas Negaroff. Je rappelle le titre de votre livre, Pouzzi chez Gallimard. On écoute Stéphanie Gallet.
Le 30 janvier, Hitler prit le pouvoir. « Cette année nous appartient », se répéta Pouzzi tout à sa joie. Contrairement à ce qu'il voulut faire croire après la fin de la guerre, Pouzzi était alors le plus heureux des hommes. Les doutes de novembre avaient fait place aux certitudes de janvier. « Nous », se répétait-il, « nous, nous, nous ». Il était les hurlements de la foule accompagnant le nouveau chancelier au Kaisernhof. Il était les flambeaux brandis dans la nuit glaciale de l'hiver. L'histoire est pleine de ces journées que les contemporains n'ont pas immédiatement perçues comme décisives. Dès le 30 janvier, Pouzzi fut nommé chef du département de la presse étrangère. Ce n'était pas un poste de ministre, mais c'était un poste stratégique. C'est à Pouzzi que revenait la responsabilité de donner une bonne image du Führer au monde. Tous les journalistes étrangers devaient désormais officiellement passer par lui pour accéder à Hitler. Il détenait les clés du paradis. Il s'était fait une place dans la machine infernale. Sa place, jamais loin du cœur, jamais loin du Führer.
un extrait de Parsifal, troisième acte de l'opéra de Wagner, au pied de la lettre aujourd'hui avec Oscar Lalo pour La race des orphelins, publié chez Belfond, et Thomas Negaroff pour Puzzi chez Gallimard.
Au pied de la lettre, RCF.
Et si on donnait une seconde chance aux livres parus dans ce premier semestre 2020, des livres sortis en plein confinement, c'était le premier. Le second nous tient aujourd'hui. Et puis aussi, bien, les librairies sont fermées, elles étaient fermées, elles le sont encore, vivement qu'on les retrouve. En tout cas, ne perdons pas les livres. Et la parole aujourd'hui à Sophie Nolot, bonjour.
Bonjour.
Pour nous parler de son livre « Espère en ton courage » paru chez Actes Sud, c'était en février-mars 2020, à l'occasion du Printemps des Poètes, expliquez-nous.
C'est beau d'entendre Barbara comme ça, c'est bouleversant. Oui, en mars 2020, c'était le Printemps des Poètes qui avait pour emblème le courage. Ça faisait des mois que j'étais à ne penser, à ne vivre, à ne respirer, à n'écrire, à ne lire que sur le courage.
Parce que vous êtes directrice artistique du poète des, du Printemps des Poètes.
Et patatras, tout d'un coup, il nous a fallu être plus courageux que prévu. Et en même temps, après cette chanson, on se sent bien humble par rapport au courage. Mais oui, c'était le thème du Printemps des Poètes et de ce petit livre que j'ai fait paraître, qui s'appelle « Espère en ton courage ». Que j'ai fait paraître, que les éditions Actes Sud ont fait paraître.
Un livre qui est nourri de très nombreux poètes. Comment vous avez fait le tri? C'est difficile.
Ah non, au contraire. Je ne fais pas de tri. J'en ai trop. J'accumule les citations. Il y a même des moments où je me dis, il faut que j'écrive entre quand même, parce qu'on va me dire
qu'on copier-coller.
Voilà. Et c'est impressionnant en même temps d'écrire après des voix pareilles, entre des mots pareils. Là, on entend Barbara chanter. Oh, comment reprendre souffle après autant d'émotions. Donc oui, c'était pas compliqué de choisir. C'était compliqué de s'y tenir. Et d'oser, en fait. Mmh. Voilà, tout simplement.
Il faut, j'imagine, laisser aussi descendre toutes ces citations que vous nous proposez. Il faut prendre le temps, peut-être. Alors, c'est un petit livre, mais justement, qu'on peut garder à portée de main.
C'est très juste. Enfin, je crois, à vous écouter, laisser prendre le temps, ça me rappelle ce thé qu'il faut laisser infuser. Et très souvent, c'est la deuxième, la troisième, voire la quatrième passe qui est la meilleure. Et oui, je crois beaucoup à ça. C'est la magie du livre aussi, du livre papier, du livre qu'on a entre les mains. On peut l'ouvrir n'importe où, on peut l'abandonner n'importe quand, on peut le reprendre, on peut jeter un coup d'œil à la fin si on en a envie. Enfin, on peut tout faire avec un livre. Et donc oui, j'aime beaucoup cette idée d'une temporalité qui serait, enfin sinon immortelle, mais en tout cas au long cours. Et en plus, le joli format d'Actes Sud dans cette collection oblongue comme ça, c'est que c'est un livre qu'on peut mettre dans une poche arrière de jean, dans la poche revolver. Il va dépasser un petit peu, mais il va entrer, donc on peut le prendre avec soi.
Mmh. Espère en ton courage, le titre vous vient de...
De Corneille et de mon adolescente lycéenne en première littéraire d'un professeur de français qui nous avait fait lire et apprendre ces quatre derniers vers du Cid. Espère en ton courage, espère en ma promesse, et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. Et cette chose apprise par le cœur, c'est bien la preuve qu'elle nous dure, et qu'elle infuse elle aussi, longtemps. Mmh.
Merci Sophie Nolot, je rappelle le titre de votre livre, Espère en ton courage, c'est paru chez Actes Sud. Bah, restez avec nous, c'est le moment poésie avec Stéphane Bataillon.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour Christophe. Alors cette semaine, je voulais vous présenter une magnifique anthologie, Habiter poétiquement le monde, aux éditions Poésis. Plus de 160 auteurs, des grands classiques, des contemporains, de Charles Baudelaire, de Rimbaud, Federico Garcia Lorca, l'américaine Emily Dickinson, à des auteurs que nos auditeurs connaissent bien, qu'on a reçus ici, comme François Tchien, Christian Bobin, des auteurs comme Adonis, Édouard Glissant, ou des gens de la société civile, savants, chercheurs, comme Hubert Reeves, ou l'écologiste Pierre Rabhi. Un ensemble d'auteurs qui nous disent tous... Pourquoi écrire? Pourquoi lire de la poésie? Qu'est-ce qu'elle fait à chacun d'entre nous, à nous tous ensemble? Et pourquoi finalement elle n'a jamais été inutile? Alors pour l'illustrer, je voulais vous lire un extrait écrit par Jean-Marie Kerwisch. Vous savez, cet auteur qui a écrit le très beau livre « L'Évangile du Gitan » en 2008 et qui nous dit ici avec ses mots pourquoi il écrit de la poésie et surtout ce qu'elle représente pour lui. Le feu de bois. Mon écriture tape du poing sur la table. Elle ne connaît pas les formules du langage poétique. Mon coup de plume ressemble à un coup de fouet. Je lance mes pensées comme des serpettes. Mes pensées ont parcouru tout l'univers avant de se blottir entre mes doigts. J'ai trop couru les routes, cheminé des villages oubliés qui portaient des noms de saints. Mes mots sont des charbons que je mets dans mon cœur pour réchauffer mon âme dans l'étroite caravane. Mes pensées à moi, je dois les trouver entre les mauvaises herbes. Mes livres gambadent dans les bois. Ils vont au bras de la pluie. Le vent joue avec leurs pages. Mes mots se baignent dans les sources et dansent autour d'un feu de bois. Alors voilà, 160 textes théoriques, poétiques, magnifiques, à retrouver pour prolonger un peu dans ces temps incertains le goût des mots, le goût de la poésie. Une anthologie qui s'appelle « Habiter poétiquement le monde », ça fait près de 500 pages et c'est publié aux éditions Poésis.
Merci Stéphane Bataillon. Des livres pour habiter poétiquement le monde, eh bien c'est voilà un beau devoir pour cette semaine. Je rappelle le titre des livres de nos invités aujourd'hui. Alors La race des orphelins, c'est le livre d'Oscar Lalo paru chez Belfond. Pudzi de Thomas Negaroff publié chez Gallimard. Espère en ton courage de Sophie Nolot publié chez Actes Sud. Merci à Pierre-Henri Paget qui fait de la magie avec la technique. Merci à Stéphanie Gallet pour les lectures, Stéphane Bataillon pour la poésie. Au pied de la lettre, c'est fini. Pour aujourd'hui, le temps passe vite. On se retrouve la semaine prochaine.